Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je tourne actuellement ce podcast à 8h du matin, donc excusez ma voix peut-être pas encore trop réveillée, parce qu'aujourd'hui la personne que j'accueille a un planning bien rempli et donc il a fallu me caler entre ses interviews de la journée. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Alexis Pinturo, le skieur français comptant le plus grand nombre de victoires, 3 médailles olympiques, 3 fois champion du monde. Bref, il en parlera mieux que moi. Bienvenue Alexis. Est-ce que ça va? Tout va bien aujourd'hui?
Ouais, tout va bien aujourd'hui, c'est gentil, merci.
Trop bien. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et voilà, nous faire un peu ta fiche
Pour les personnes qui ne me connaissent pas, grosso modo, bah, je viens de Courchevel, en Savoie. J'ai 32 ans aujourd'hui. J'ai grandi, on va dire, entre la montagne et Annecy aussi, donc les pourtours du lac d'Annecy. J'ai toujours été un grand passionné de sport et puis avec le temps, bien entendu, en plus particulièrement de ski.
Ok, du coup, comment est-ce que tu es tombé dans le sport alpin ?
Forcément, habitant à la montagne, mon grand-père en fait a construit un hôtel à Courchevel. Il en a même construit deux. Les deux hôtels sont restés dans la famille. Aujourd'hui, ça a été mon père, puis ensuite c'est ma sœur maintenant qui s'en occupe. Donc de fil en aiguille, en fait, c'était tout naturel que je sois mis sur des skis. À l'âge de 2 ans, j'ai attaqué mes premières glisses et puis après, je suis rentré au club des sports à l'âge de 6 ans et puis j'ai suivi le cursus à peu près normal jusqu'au moment où, oui, là, on fait vraiment le choix de devenir un athlète professionnel et où les résultats commençaient à aller aussi en adéquation.
Et c'est à quel âge justement qu'il y a ce changement où tu commences vraiment à devenir pro dans le ski?
On va dire que c'est plus ou moins au moment où ça commence à être notre métier, ou en tout cas où on passe énormément de temps. Donc ça commence relativement tôt. Déjà au lycée, on accorde une grande partie de nos choix et de notre organisation autour du ski. Mais là où on va dire que les choses deviennent importantes et on commence peut-être à gagner sa vie grâce aux résultats, là c'était plus aux alentours des 20 ans pour ma part.
Ouais. Est-ce que tu penses que pour les personnes qui viennent pas de la montagne, c'est possible quand même d'être champion de ski, ou quand même ça aide beaucoup d'avoir grandi dans ce milieu?
Alors c'est sûr que ça aide d'avoir grandi dans ce milieu. Après, il y a des exemples quand même qui montrent que on peut arriver de la ville, on peut et malgré tout y arriver. Il y a un athlète d'ailleurs en ce moment en équipe de France qui s'appelle Thibaut Favreau. Il vient de Strasbourg. Il a toujours fait du ski justement dans les collines alsaciennes, on va dire. Et pour autant, aujourd'hui, il est en équipe de France. Il est parmi les 15 meilleurs mondiaux dans sa discipline. Donc oui, c'est aussi possible. Mais bien entendu, il y a des exemples comme lui, il y en a moins. Et c'est pas aussi simple.
Ok. Et donc, t'as fait des grandes compétitions, des JO, des championnats mondiaux, etc. Ça, c'était à partir de quand? Du coup, t'as 20aine, tu m'as dit que t'as commencé à...
Mon premier podium, je le fais à 19 ans. Exactement.
Ah ouais. Ok, bravo.
Donc, 19 ans, j'étais très jeune dans le ski de manière générale. La maturité commence à arriver aux alentours de 24 ans environ. Okay. C'est un peu plus la moyenne. Il y a certains athlètes, bien sûr, qui arrivent à performer relativement tôt. Et après, les premiers mondiaux, ça devait être pour moi aux alentours des 21 ans. Et puis les JO. Mes JO, je suis pas tombé dans les bonnes années. Donc du coup, j'ai pas fait mes premiers JO à 20 ans. J'ai dû les faire à 22 ou 23 ans. Donc voilà, c'est un peu les péripéties du sportif. Mais je pense avoir eu jusqu'à là une belle carrière. Ou en tout cas, il me reste quelques années, mais jusqu'à là une belle carrière.
Ouais. Et ça se passe comment? Tu fais des sélections, t'es repéré pour participer à des compétitions comme ça, ou c'est tu montes les échelons? Parce que moi, je fais du ski, mais je connais pas grand chose aux compètes.
Ouais, pour vulgariser, en gros, c'est en fonction des résultats, beaucoup. En fait, on fait un sport individuel, donc le résultat parle de lui-même. Chaque fois qu'on fait des bonnes performances, ça nous ouvre des portes, ça nous donne la possibilité de franchir un échelon supérieur, et c'est clairement basé justement sur la performance. Donc il n'y a pas ces détections, ou alors les moments où on doit faire des tests, et il peut y avoir des sélections qui sont faites en fonction des tests qu'on va faire. Non, ça, il n'y a pas du tout dans les sports individuels, c'est vraiment la performance qui parle.
Ok, et ça se passe comment ta première compète vraiment importante? T'étais stressé, t'avais hâte?
Ma première compète, je me souviens, on va dire en Coupe du Monde, parce que première, on attaque très tôt,
oui.
Mais en Coupe du Monde, donc le plus haut niveau, moi, c'était ce qui m'avait surtout impressionné, c'était de se dire que ça allait être transmis dans le monde entier, que tous les médias allaient forcément en parler, que il y a énormément de spectateurs aussi dans les aires d'arrivée, et ça, c'est des choses pour lesquelles généralement on n'est pas confronté avant le plus haut niveau. Donc ça, c'est la partie qui est un peu plus déroutante ou surprenante, et ça prend un peu plus de temps, en tout cas, de l'assimiler, même si au bout de 4-5 épreuves, on a commencé à bien comprendre, ou à comprendre en tout cas le mécanisme.
Ouais. Oui, après tu te mets dans ta bulle et tu te focuses sur la performance et toi, quoi.
C'est ça, exactement.
Et ça se passe comment? Est-ce que tu t'entraînes avant sur les pistes, ou le jour J, t'arrives et tu découvres et advienne que pourra?
Non, alors on a une grosse particularité, nous, dans notre sport, c'est qu'on découvre généralement la piste et le tracé le jour de la course.
Ok.
Ouais, en fait, il y a une règle qui dit qu'on n'a pas le droit de skier sur la piste 5 jours avant les épreuves de Coupe du Monde. Donc, avant ça, c'est possible. Mais généralement, 5 jours avant, on est sur les compétitions d'avant. Donc, on a très peu l'opportunité de s'entraîner sur les pistes, et encore moins dans les conditions du réel. Donc, c'est-à-dire sur les mêmes conditions d'enneigement, sur le même tracé, etc. Parce que ça, on le découvre vraiment le jour J.
Et t'as déjà eu des fois où t'as eu vraiment une météo horrible, t'étais pas du tout préparé à ça, t'es arrivé et tu t'es dit « Oula, alors j'avais pas prévu ça ». Enfin, comment vous faites justement pour un peu anticiper, mis à part regarder la météo et tout, pour être prêt dans n'importe quelle situation qui peut arriver?
Nous, ce qui va peut-être plus nous surprendre, c'est le revêtement de la piste, donc la neige. Comment est la neige? Est-ce qu'elle est extrêmement glacée? Est-ce qu'au contraire, elle est plutôt agressive? Quand je dis agressive, ça reste quand même quelque chose de très dur. On skie généralement toujours sur un peu des patinoires, hein, pour imager. On est vraiment... Nous, ce qu'on aime, c'est la glace. Donc, c'est l'inverse généralement de ce qu'aiment les gens quand ils vont au ski. Et parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la meilleure compétitivité. On s'élance les uns après les autres, donc plus c'est dur, mieux c'est, plus ça reste homogène, que ce soit pour le premier dossard ou pour le 30e. Donc du coup, c'est pour ça qu'on aime les neiges dures, et c'est plus ça qui va nous surprendre. Donc okay. Parce qu'il y a des fois, on va voir la météo, à force d'expérience, on arrive à savoir en fonction de la météo comment ils peuvent préparer les pistes, mais il y a quand même des fois où on peut être surpris, et c'est plus ça qui va nous poser problème, parce qu'on fait des réglages sur notre matériel en fonction des conditions de neige qu'on va avoir sur la course le jour J. Après, la météo, on peut s'attendre à du mauvais temps ou du beau temps, mais il y a toujours différents mauvais temps. Certains sont vraiment exécrables et certains sont plus agréables.
Tu m'étonnes. Il y a beaucoup de rivalité au moment... Enfin, j'imagine que tu n'arrives pas seul, tu vois les gens de partout dans le monde, etc. Est-ce que c'est plutôt bonne ambiance, ou justement chacun est dans sa course, dans son truc, et vous ne vous parlez pas trop entre vous?
Non, on a l'opportunité, la chance, je dirais, d'avoir un sport qui est assez soudé, parce qu'on a un gros risque de blessure, en fait.
Oui, c'est
dans le ski, la blessure est omniprésente, et d'une certaine forme, de manière, ça nous soude. C'est-à-dire que oui, on est tous concurrents les uns vis-à-vis des autres, mais pour autant, on souhaite pas le malheur des autres.
Oui.
Voilà, quand il y en a un qui se blesse, on est toujours soucieux de savoir quel est son état physique, comment il se sent, et en espérant bien sûr que ce soit jamais trop grave. Donc ça, c'est ce qui forme toujours une certaine famille, et je dirais, et on a toujours été appelé la famille du ski, et c'est pas pour rien, c'est justement à cause de tout ça.
Et ça te fait pas peur justement de savoir que ton sport est dangereux, tu peux te blesser, il y a déjà eu des gros accidents, ça comment tu te places par rapport à ça, parce que vous allez quand même hyper vite, c'est quoi, à combien de kilomètres vous allez?
Moi, pour ma part, c'est 160 km/h, c'est mon record, entre guillemets. Ouais, ça va très très vite, ça va très très vite. Alors, c'est pas tous les jours comme ça, on va pas tout le temps à cette allure-là. Mais de manière générale, on dépasse souvent les 100, les vitesses moyennes sont au-delà de 100. Ça va dépendre de la discipline, bien entendu, mais on est toujours très rapide. Mais c'est pas quelque chose qui fait peur. Au contraire, moi, c'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne. C'est quelque chose que j'aime. C'est ce qui nous stimule. C'est ce qui nous donne toute cette adrénaline et toutes ces sensations. Et ce, finalement, pourquoi je fais ce sport. Mmh. Bien sûr, on n'a pas envie de se blesser. On se prépare pour ça. On essaye de minimiser les risques, mais on sait que ça peut arriver. Mais c'est pas quelque chose sur quoi on se focalise. Je pense qu'en ce moment, il y a justement la Coupe du Monde de rugby, c'est d'actualité. Mmh. Et eux, dans ce sport, ils ne pensent pas non plus à la blessure. Ils pensent à tout ce qu'il y a autour et au plaisir que tout le sport peut leur procurer.
Oui, c'est plus, il y a beaucoup plus de positif que de négatif qui peut arriver, quoi.
Exactement. Sinon, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde dans le ski alpin, alors dans le rugby, ou alors dans d'autres sports.
Ouais, c'est ça, c'est la passion avant tout. Et justement, est-ce que tu as des petites anecdotes dans ta vie de skieur français pro qui t'ont touché, des moments où vraiment tu t'en souviendras toute ta vie?
Oui. C'est sûr. En fait, on a l'opportunité, la chance de vivre des moments assez uniques, assez forts, qu'on partage généralement avec notre entourage, avec nos entraîneurs. Et des moments forts, ça va être, je pense, au dernier, qui est mon titre de champion du monde à la maison. Quand je dis à la maison, c'est parce que c'était en France, les championnats du monde. Et c'était
cette année,
en plus à Courchevel, exactement. C'était en février. Ah, oui. Donc là, c'est des moments qui sont extrêmement forts. On sait que c'est des moments qu'on vit une fois dans notre vie. Ou alors, tout simplement, le moment où je gagne le gros globe de cristal. Il y a énormément de choses qui jouent sur une seule journée. Et j'arrive à être décisif. J'arrive à trouver les clés pour gagner ce jour-là. Et qui, du coup, me permet de, en même temps, gagner beaucoup d'autres choses en découlement. Donc c'est... Il y en a beaucoup d'autres, des exemples, il y en a même énormément, et c'est ce qui fait la beauté du sport de manière générale, c'est qu'on vit toujours des émotions assez fortes, et je pense que c'est ce qui nous stimule. Bien entendu, ça prend beaucoup d'énergie psychologique, il y a énormément de pression, il peut y avoir énormément de facteurs aussi qui sont à force éreintants, fatigants, tout ce qui est, on parle d'entraînement, etc. Mais... en même temps, c'est vite estompé par les résultats qu'il peut y avoir et par les émotions qu'on vit et la force des émotions qu'on vit.
Ok, justement, là, tu parlais, il y a beaucoup de monde autour de vous, beaucoup d'organisations. On va rentrer un peu dans la partie de l'équipe globale. De qui se compose son équipe, avec qui tu es entouré, comment tu travailles avec eux?
Alors, de qui je suis entouré? Autour de moi, il y a 6 personnes. Okay. Il y a 2 entraîneurs ski, il y a un préparateur physique, il y a un kiné, il y a 2 techniciens. Techniciens, c'est quoi? C'est un peu les ingénieurs du ski, ceux qui préparent mon matériel, donc mes skis notamment. Et puis après, il y a une attachée de presse.
Ok. Et ces personnes-là, elles te suivent dans toutes les compétitions à chaque fois autour du monde?
Elles vont me suivre, alors pas forcément toutes à chaque fois, mais en tout cas, pour certains, oui. C'est-à-dire que mes entraîneurs ski pendant l'hiver sont tout le temps là. Par contre, il y en a d'autres qui peuvent venir plus en pointillés, ça va dépendre. Mais de manière générale, oui, on est quand même une équipe qui est presque à 90% du temps ensemble et qui fonctionne ensemble.
Et c'est quoi ta journée type quand t'es... Parce que du coup, t'as une saison de ski, mais le reste de l'année, tu fais quoi? Du coup, quand il y a pas... En France, il y a des moments où il y a moins de neige, voilà, on peut pas moins skier.
Bien sûr.
Qu'est-ce que tu fais du coup? Ton année est divisée en 2 vraiment, ou tu pars justement à l'étranger là où il y a de la neige?
Alors oui, notre année est divisée en 2. Donc il y a la saison compétition qui va durer l'hiver, donc c'est fin octobre jusqu'à fin mars. Ça, c'est vraiment la saison compétition. Et après, il y a la saison préparation. Pendant l'hiver, pendant qu'on est en train de courir, on s'entraîne très peu. On fait essentiellement du maintien de forme. On fait des séances d'entraînement sur les skis, mais qui sont plus pour garder le tonus musculaire, le tonus nerveux. Et c'est pas vraiment de l'entraînement pur. Tout ce qui est entraînement va être fait pendant l'été. Donc, ça va être entraînement physique d'abord, déjà pour pallier à la blessure, pour essayer vraiment d'endiguer tout ce qui est blessure. Donc ça, c'est un gros bloc. On fait presque 3 mois de préparation physique.
Okay.
Ensuite, on rattaque le ski. Et quand on rattaque le ski, donc c'est aux alentours de mi-août, là, on fait du ski le matin et encore de l'entraînement physique l'après-midi pour garder justement notre niveau physique. Et par contre, une fois qu'on arrive à mi-août, là, le ski devient un peu plus important quand même. Il y a une prédominance de l'entraînement sur les skis par rapport à l'entraînement physique qu'on va faire en salle. Et jusque octobre, où là, c'est les premières compétitions. Et il y a finalement qu'un seul petit mois de repos ou de vacances qui va être de fin avril, grosso modo, jusqu'à fin mai. Donc, c'est court, mais... On a besoin d'une grosse période de préparation et dans cette période quand même d'été, il y a quelques petites coupures, une semaine par-ci, une semaine par-là, pour pouvoir reposer le corps, parce que c'est aussi important, le corps, oui, il travaille tellement qu'il faut qu'il se repose à des moments bien précis.
Et tu skis où du coup en août? Tu vas sur les glaciers et tout en France?
Sur, okay, les glaciers, alors pas forcément en France, en Europe ou, okay, alors en hémisphère sud, parce que là-bas c'est l'hiver.
Okay.
Donc qui dit hémisphère sud, c'est Argentine, Chili, Nouvelle-Zélande, Australie. Nous, les Français, on est plutôt coutumiers à aller en Argentine ou au Chili.
Ok.
Et après, pour tout ce qui est programme, parce que du coup j'ai pas tout à fait répondu, d'une journée, on va dire... 8 heures, on est généralement bien actif.
Ouais, j'ai vu ce matin.
Quand on est sur les glaciers, on se lève généralement à 6h, 5h30.
Okay.
Et on monte sur les glaciers, on est généralement au sommet vers les 6h30, 7h. Et on commence déjà à skier aux alentours de 7h. Hein. Donc, et parce que les glaciers, on skie à des moments très tôt pour préserver les glaciers. Mmh. C'est-à-dire qu'à 11h, on arrête tout ski parce que la neige commence à transformer. Donc du coup, ça a plus de sens pour nous. Mais en plus de ça, ça commence à abîmer les glaciers. Donc du coup, une fois que la neige commence à ramollir, là, les skieurs rentrent.
Ouais. Ok, et du coup, après ça, tu fais toute ta préparation physique, etc. L'après-midi, du coup.
C'est ça. Du coup, sur les coups des 11h, 11h30, on est à l'hôtel. On se restaure, bien entendu, le midi. Et l'après-midi, on fait plutôt une séance physique qui va durer 1h30 ou 2h. Ça va dépendre. Puis après, s'ensuit des soins. S'ensuit éventuellement aussi du travail de vidéo par rapport à ce qu'on a fait le matin sur les skis pour analyser qu'est-ce qu'on peut faire mieux, comment on peut améliorer certaines choses, la technique, etc. Ouais.
Oui, justement, t'analyses à chaque fois tes courses et tu prends en compte tout. Enfin, est-ce que t'as quelqu'un qui reporte tous tes trucs, toutes tes vitesses, tous tes, je sais pas, tes virages, je connais pas le langage pro, mais...
Ouais, travail d'analyse. Oui, il y a le travail d'analyse. Ce qu'on fait énormément, c'est combien de virages on fait par discipline et par saison de préparation avant d'attaquer un hiver, pour savoir aussi, du coup, avoir une idée du volume d'entraînement, si on est trop faible, trop haut. Après, on a bien entendu les vitesses. Ça, c'est très important pour faire les entraînements au plus proche de ce qu'on souhaite et notamment de nos disciplines. Ça n'a pas de sens de faire un entraînement de super G si on ne dépasse pas les 90 km/h de moyenne.
Okay.
Ça n'a pas de sens de la même manière de faire un entraînement en descente si on ne dépasse pas les 100 km/h de moyenne. Donc voilà, c'est pour ça que ça, c'est très important pour être dans le juste, pour être dans le vrai par rapport à ce qu'on veut travailler et ce qu'on cherche à travailler. Puis après, il y a tout l'aspect technique où là, c'est vraiment... c'est du langage un peu barbare,
ouais,
quoi. Donc c'est les alignements des épaules, les alignements,
okay,
du haut du corps par rapport au bas du corps pour être le plus fort possible sur les appuis et emmener bien entendu le plus de vitesse possible à chaque virage.
Ok, et tu gères comment justement quand t'as des résultats, des analyses ou même des classes pendant les courses qui te satisfont pas, comment t'arrives à... Parce que moi, par exemple, je sais, je suis hyper mauvaise joueuse, je déteste les trucs de compète parce que si je perds, je me vexe et je ne vais plus en faire pendant 2 ans, tu vois. Comment tu arrives à passer au-dessus de ça et justement t'en servir comme une force pour les prochaines fois?
Au contraire, je pense que du coup, il y a une forme quand même de compétiteur, hein, et dans chaque personne qui n'aime pas perdre. C'est-à-dire que moi, je déteste perdre. Quand je perds, c'est frustrant, on n'aime pas ça, et n'importe quel athlète de haut niveau n'aime pas ça. Donc après, c'est plutôt apprendre à comment le mettre de côté, le digérer et derrière rebondir surtout. C'est le plus important. Il faut pas se leurrer, même derrière les plus grandes carrières, il y a surtout énormément d'échecs. Je pense que d'ailleurs, dans une carrière, il y a plus d'échecs que de réussites. Sauf que généralement, on en parle moins,
ouais,
et du coup, ça se voit moins. Mais c'est aussi grâce à ces échecs ou ces contre-performances qu'on progresse énormément, qu'on se remet en question, qu'on se demande comment on peut faire mieux, qu'est-ce qui a pas fonctionné, et qu'on analyse. Et derrière aussi, ça nous permet de garder une certaine humilité par rapport à la performance et notamment à ce qu'on peut réaliser.
Ok. Et t'arrives quand même, enfin là t'as un emploi du temps très rempli, j'imagine que c'est encore plus quand justement t'es en saison, t'es en entraînement, etc. À part en été, t'arrives quand même à voir tes proches, à prendre un peu du temps pour toi, ou c'est dur dans le sport de haut niveau
Dans le ski en tout cas, c'est ce que je vais pas parler pour l'ensemble des sports, mais dans le ski c'est pas facile. Parce qu'on cherche la neige, on cherche l'hiver, on va toujours à des endroits du coup qui sont relativement loin. On a toujours besoin de s'absenter de la maison pour pouvoir aller s'entraîner. On peut pas aller au terrain de tennis d'à côté pour pouvoir,
oui,
faire avec son coach un entraînement. Ça, c'est pas possible pour nous. pendant l'été et qu'on fait l'entraînement physique, oui, on le fait à la maison. Donc, on dort à la maison et puis la journée, on s'entraîne et on fait ça autour de chez nous. Par contre, dès qu'on doit aller sur les skis, là, c'est plus compliqué. Après, on trouve des solutions, on trouve des moyens aussi d'organiser. Et puis, avec l'expérience et les années, on trouve des moments pour voir les amis, pour voir la famille. Et parce que c'est toujours quand même extrêmement important pour l'équilibre de l'athlète et en même temps pour pas couper des liens, parce que il y a pas que le sport, il y a pas que le ski dans la vie, et qu'il faut quand même garder des liens, je dirais, dans la société un peu plus traditionnelle.
Oui, et t'as droit justement d'amener, enfin de dire bon bah pour cette compète je serai accompagné de telle personne, ou t'as un quota, comment ça se passe dans les organisations des trucs, t'as droit d'emmener, je sais pas, tes parents, tes...
Ouais, c'est pas si simple dans le ski, dans le sens où c'est assez archaïque, le système est assez archaïque, assez vieux, assez ancien, donc c'est pas comme dans certains sports où aujourd'hui on peut dire combien de personnes vont nous accompagner et on a besoin de X tickets. Bien entendu, dans le ski alpin, on peut le faire, mais c'est pas aussi simple, c'est pas aussi prédéfini, on ne sait pas forcément à l'avance combien de tickets on pourrait avoir, c'est qui rend du coup la chose assez difficile. Après, on sait pertinemment qu'à chaque événement, on peut ramener 2-3 personnes, ça posera généralement pas trop de problèmes. Par contre, s'il commence à y avoir une grande partie de la famille et des amis, là, c'est un peu plus problématique.
Ouais, ouais, surtout ces familles nombreuses et tout ton groupe d'amis, ouais, tu m'étonnes.
Ouais, là, il faut peut-être plus le mettre de côté. Ouais.
Ils regardent à la télé et puis voilà. Et t'as pas peur, justement, pour le futur de ton sport, parce que, bah, comme tu dis, tu cherches toujours la neige et vous avez besoin de ça. Là, avec le réchauffement climatique, il y a plein de stations qui... des stations de plus basse altitude, donc c'est peut-être moins là où tu skis, mais qui vont disparaître. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur et auquel tu réfléchis avec ton équipe, etc.? Comment tu te places par rapport à ça?
Alors, qui nous a réfléchi avec l'équipe pour justement trouver des solutions d'entraînement, etc. Pour le moment, c'est pas le cas pour nous. Par contre, réfléchir par rapport au format de notre sport, par rapport justement à toutes ces problématiques-là, comment notre sport va évoluer et d'autres, hein, bien entendu. Mais nous, on fait vraiment partie des premiers sports impliqués et surtout qui tend à avoir des difficultés pour leur pratique à l'avenir. Donc des fois, c'est assez alarmant, surtout quand je vois l'état des glaciers. Quand j'étais très jeune, j'avais même pas 10 ans que j'allais sur les glaciers. Les glaciers, ils devaient en rester quand même aux alentours de 5 en France, si je dis pas de bêtises, 5 skis praticables. Hein.
Okay.
Aujourd'hui, il en reste à peine 1. Donc, ça montre à quelle vitesse les choses vont actuellement. C'est-à-dire qu'en 20 ans, il y a énormément de choses qui ont disparu. Donc, des glaciers notamment, ils ont disparu. Et quand on parle de réchauffement climatique... et qu'on habite, je sais pas, peut-être à Paris ou dans des villes ou même à Annecy, hein. En fait, tout ça, on s'en rend moins compte. Parce que, bien entendu, on sent les chaleurs, on sent qu'il fait chaud, on sent qu'il y a un manque d'eau. Ça, c'est des choses qu'on voit, qu'on perçoit. Mais par contre, vraiment, les choses qui sont frappantes et marquantes, je trouve que c'est l'état des glaciers. Et l'état des glaciers, pour moi, qui le vis au quotidien, ouais, c'est assez alarmant. Ça pousse à la réflexion, à trouver éventuellement des solutions. Je sais que c'est loin d'être évident, mais il y a des choses qui vont forcément amener à changer avec le temps et les années et la situation dans laquelle on évolue actuellement.
Ouais, c'est sûr, je suis d'accord. Et là, c'est quoi là, tu pars bientôt là, parce qu'on est en octobre, on est mi-octobre, alors où on tourne le podcast, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir exactement. Là, tu pars bientôt, c'est quoi la prochaine compète? C'est quoi les prochaines étapes là, en gros?
Prochaine compète, 29 octobre, à Zolden exactement, en Autriche.
Ok.
Donc, on y est bientôt, dans à peine 3 semaines.
Ouais, j'avoue, ça va, t'as hâte? Ça te manque?
En tout cas, j'ai hâte de commencer. Quand on fait une préparation qui est aussi longue, au bout d'un moment, on en a marre. Hein. Faut pas se leurrer. L'entraînement, ça va bien 5 minutes. On le fait pour un objectif. Mm. L'objectif, c'est les compétitions, c'est la saison. Donc oui, au bout d'un moment, on a envie que ça commence. On a envie de se tester. On a envie de voir comment on se sent par rapport aux autres et de performer, ou en tout cas le plus possible.
Et juste avant, là, du coup, t'es dans ta période d'interview, de médiatisation, en gros, là, si j'ai bien compris.
Quand on vient à Paris, il n'y a pas que de ça, mais oui, il y a des journées qu'on fait à Paris pour faire pour voir des médias, pour faire des conférences de presse, etc. Parce que c'est important, ça nous permet, en tout cas à moi, de lancer ma saison et de la finir. Parce que j'ai souvent pour coutume d'en faire une avant la saison et une après la saison. C'est toujours des moments où on a plus de temps aussi pour pouvoir le faire. Et c'est important de le faire.
Ok, bon bah écoute, on te souhaite le meilleur pour cette compète le 29 octobre, on pensera tous à toi.
C'est gentil.
Et si tu avais pour finir quelque chose à dire aux personnes qui écoutent, qui sont inspirées par ce que tu dis, qui sont fascinées, qui sont, voilà, qui ont une passion et qui ont peut-être pas le temps ou l'envie, enfin, qui ont l'envie mais qui ont peut-être peur de se lancer à fond dedans, ou qu'est-ce que tu dirais à ces personnes, ou qu'est-ce que tu dirais au toi petit qui t'écoute maintenant?
Que c'est l'espoir et les rêves qui font vivre. Et que donc du coup il faut y aller à fond, il faut se donner les moyens d'essayer en tout cas. Ça veut pas dire que ça fonctionne toujours, hein. Quand on essaye, souvent on échoue, mais en tout cas ça, on apprend toujours. Donc c'est grâce à tout ça que moi j'en suis là aujourd'hui, et c'est ce que je souhaite aux autres, d'essayer, de tomber, de se relever et d'apprendre en même temps pour pouvoir aller plus haut et plus loin.
Ouais, t'as jamais eu envie, toi, d'arrêter de... Chaque fois, tu disais non, je continue, je veux, t'as un rêve et tu poursuis, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis après, bon, il y a quand même aussi une grande partie de plaisir. Tout ça, je le fais parce que ça m'anime, ça me plaît. Si c'était pas le cas, ce serait peut-être un peu différent. Donc chacun doit trouver un peu sa voix qui le fait vibrer et qui a envie de, justement, le pousser au plus haut possible. Et ça, c'est le plus important.
Ok, c'est beau. Écoutez tout ça. Et j'ai une dernière question qui n'a rien à voir, mais depuis tout à l'heure, je me demande, t'as combien de paires de skis?
Combien de paires de skis? Je fais beaucoup de disciplines. Je suis l'un des rares athlètes qui fait autant de disciplines dans le ski alpin. Nous, on a 4 disciplines dans le ski alpin.
C'est quoi les 4 disciplines?
En fait, il y a le slalom, le géant, le super G et la descente. Je les ai citées dans l'ordre où il y a du plus de virages au moins de virages.
Okay.
Donc on va de moins en moins, enfin de plus en plus vite dans l'ordre que je les ai citées. Le slalom, on dépasse les 60-50 km/h. Okay. En géant, on est plus sur les 80 de moyenne. En super G, on est plus vers les 95, et en descente on est au-delà de 100 de moyenne.
Okay.
Donc moi j'ai la particularité de faire 3 disciplines. On n'est pas beaucoup à en faire autant, donc grosso modo ça va être aux alentours, ça va dépendre les années, ça va dépendre si le développement du matériel est bon, si on est un peu en retard. Si on est en retard, forcément il y a plus de paires de skis à tester. Si par contre on sent que les choses sont bien, là on va avoir moins de skis. Mais moins de skis, ça veut dire quoi? C'est aux alentours quand même d'une dizaine de paires malgré tout par discipline.
Ouais, punaise quand même.
Oui, parce que...
En même temps, c'est...
Ah, c'est comme en Formule 1, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réglages sur chaque... On peut avoir des paires qui sont similaires. Par contre, on peut avoir des petits changements en fonction des paires et qu'on va prendre en fonction des conditions sur lesquelles auxquelles on va être confronté le jour de la course. Donc ça, c'est les adaptations qu'on fait en dernière minute. Donc c'est pour ça qu'une dizaine de paires par discipline, c'est à peu près le minimum, et ça peut aller à une trentaine de paires en fonction des saisons si le développement est pas forcément très bon le jour du début de saison, parce que c'est souvent le début de saison qui donne le glas, donc de savoir si on est en forme, si techniquement on est bien, mais aussi si le matériel est performant. Et s'il l'est pas, ben là on doit un peu rattraper ce retard, et donc du coup oui, il faut faire beaucoup de recherches, beaucoup de développement pour pouvoir combler ce retard, et ça prend du temps, et donc ça demande des moyens matériels aussi, ouais.
Ok, bah tu dois être bien chargé quand tu voyages du coup. Trop bien, bah merci beaucoup en tout cas Alexis pour ce podcast. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter ou si tu penses qu'on a fait le tour.
Je crois qu'on a fait le tour, mais un grand merci en tout cas à vous.
Bah avec plaisir, et pour vous qui nous écoutez, n'oubliez pas qu'il y a un nouvel épisode tous les mardis, et si jamais vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous laisse aller les découvrir. Et avant de finir ce podcast, je voulais juste vous inviter à écouter un autre podcast que j'ai moi-même découvert il y a peu de temps et que j'adore. C'est un des podcasts les plus écoutés en France et on y apprend plein de trucs. Ça s'appelle Choses à savoir culture générale, et tous les jours, en 2 minutes, ils répondent à une question. Donc ça peut être par exemple, pourquoi il est interdit de prendre la tour Eiffel en photo la nuit? Pourquoi le nez des statues égyptiennes est souvent cassé? Pourquoi il y a plus de droitiers que de gauchers? Ou alors, d'où vient le nom des fraises Tagada? Bref, c'est très intéressant, vous vous coucherez moins bête. Donc si jamais vous êtes curieux d'écouter les réponses, vous pouvez chercher Choses à savoir culture générale dans votre appli de podcast, ou bien aller directement sur le site chosesasavoir.com. Je vous dis rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé.
Cordialement, Zoé.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.